Bien, bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous pour cette rencontre avec Yannick Hennel, qui va nous réunir pendant à peu près une heure. Yannick Hennel, vous le savez, est romancier et il s'est livré à un exercice et une expérience qui, je crois, fera date dans sa vie d'homme et dans sa vie d'écrivain, qui est que de septembre à décembre 2020, il a suivi le procès des attentats de janvier 2015 contre Charlie Hebdo, contre l'hypercachère de Vincennes et contre cette policière qui est décédée à Montrouge. Il écrivait à Charlie Hebdo depuis déjà quelques années et pendant le procès, il a chaque matin livré une chronique au journal Charlie Hebdo. Il a fait ça à la demande de Rhys, le patron de Charlie Hebdo. Et puis, il a repris ses chroniques et là, il est passé à une autre étape. Il a écrit un récit très subjectif, très personnel, qui s'appelle Notre solitude, qui est paru aux éditions Les Échappées. Je ne vous le montre pas parce que moi, il est sur ma liseuse et donc ça n'a aucun intérêt que je vous montre ma liseuse. Mais je vous incite fortement à le lire parce que c'est un récit dont on ne ressort pas exactement dans le même état que quand on y entre. Mais c'est un peu aussi ce qui est arrivé à Yannick Hennel. Ce récit est devenu un moment de théâtre grâce à la comédienne Marie-Sophie Ferdan qui en a déjà donné une lecture au Théâtre National de Bretagne. Elle recommence ce soir et je crois qu'il y a encore des représentations les 23 et 24 novembre. Le moment de théâtre n'est pas exactement le récit, puisque le récit fait 350 pages. La performance de Marie-Sophie dure à peu près 45 minutes, une heure. Donc vous avez, vous ou elle, ou tous les deux, Yannick Hennel, fait des choix de coupe, vous avez prélevé certains passages, vous en avez laissé d'autres de côté. Qu'est-ce que vous avez décidé de laisser de côté et qu'est-ce que vous avez décidé de garder pour cette lecture ?
Alors, ça s'est passé de manière un peu intuitive. Elle m'a fait confiance, enfin, elle m'a demandé de faire le découpage moi-même. Et un après-midi, juste avant d'aller la voir, enfin, je la connaissais déjà avant comme actrice et j'apprécie tout ce qu'elle fait et je me disais, enfin, j'ai sélectionné des pages où j'entendais sa voix, je ne sais pas comment dire ça, non pas qu'on n'en puisse pas entendre sa voix durant tout le livre, mais une espèce de thriller métaphysique horrible que j'ai vécu. Un jour très particulier des audiences au bout de quelques jours où j'ai vu ce que j'aurais aimé ne pas voir, qui était sous scellé et qui était la scène de crime à Charlie Hebdo enregistrée et qu'on ne montrait que ce jour-là. Et les 30 premières pages que j'ai écrites comme ça, deux mois après le procès, les 30 premières pages sont sorties telles quelles, enfin, d'un coup, sans rature. Et donc, je me suis dit que ça, on pouvait commencer comme ça, puisque ça a commencé comme ça. Donc, j'ai donné ça à Marie-Sophie Ferdan. Et il se trouve que le livre, dans mon esprit, dans mon souvenir, se déploie aussi et s'effiloche au fur et à mesure en une réflexion sur toutes sortes de choses, enfin, sur l'éthique, sur la justice, sur la défaillance, sur les limites du langage et la manière dont on reçoit quand on assiste à un procès en cour d'assises, et a fortiori celui-ci. Enfin, c'était le premier procès d'attentat en fait en France. Il y en a eu un deuxième, comme vous savez, il y en aura malheureusement beaucoup encore. Il y avait quelque chose qui est entré en jeu dont je ne me rendais pas compte à l'époque, qui est la responsabilité du langage. Parce que quand bien même j'ai je sais pas, 30 ans d'écriture derrière moi, j'ai jamais senti le poids de la responsabilité autant que durant cette période-là. Je sentais non seulement toute la rédaction de Charlie Hebdo sur mes épaules, je m'amusais à dire à Rhys, toi tu es là, c'est super mal là, toi t'es le plus lourd. Il y avait Coco qui me faisait mal là, et bien d'autres, et Kafka aussi, et tous ceux qui sont notre surmoi. Mais là, il y avait la justice, quoi. D'habitude, j'écris ce que je veux. Je peux déconner, enfin, je peux divaguer. Et donc, au fur et à mesure du livre, je me suis rendu compte qu'effectivement, de ce livre-là, en choisissant pour Marie-Sophie Ferdan, qu'il y avait toutes sortes de réflexions, enfin, que ça sinuait, c'était un peu labyrinthique. Et j'ai senti qu'il fallait quand même donner aussi des petits morceaux de ça. Voilà, le livre est un... Enfin, le livre, pardon, la lecture. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'aller l'écouter ou si vous allez l'écouter. Je dois dire que la première fois qu'on l'avait quasiment improvisé, elle et moi, on l'avait bricolé à la Maison de la Poésie, il y a un an, pour commémorer le 7 janvier de l'année dernière, les massacres. Je ne sais pas si on peut commémorer une chose pareille, mais bon. J'ai du mal à finir mes phrases. Enfin, je ne me souviens plus comment je l'ai commencé, mais vous me pardonnerez. Je mets quelques petits points de suspension.
Vous disiez que vous aviez bricolé quelque chose. Oui, donc
le soir où elle l'a dit, je me suis rendu compte que ça constituait un livre à l'intérieur du livre. Enfin, c'est un livre qui est complet, au fond. C'est un récit à l'intérieur du récit. Ce n'est pas le best-of, mais c'est une quintessence, au fond. Donc, ça démarre très durement. Avec les répercussions sur celui qui était censé le raconter, c'est-à-dire moi, de ce qu'on voyait ce jour-là, le 8 septembre 2020, dans la salle d'audience, c'est-à-dire en noir et blanc, la caméra de surveillance à l'entrée de Charlie Hebdo, les Kouachi qui poussent Coco et qui tirent. Puis après, les images arrêtées, cette fois-ci en couleur, enfin les photographies de la brigade criminelle des morts. Et ce jour-là, et donc je n'ai pas pu le raconter comme ça dans la chronique à l'époque, puisqu'il fallait qu'à 7h du matin, je donne un texte sur le site de Charlie Hebdo. C'était un exercice stupéfiant, parce que ça requérait de ma part non seulement une vitesse d'écriture que je n'ai pas, moi je suis un romancier, donc je suis quelqu'un de lent, enfin, je sais pas, je mets 5 ans à écrire un livre, et j'aime ce temps, enfin. Mais ça requérait des forces que je n'avais pas. Et c'était ça qui était beau. C'est que je me disais, face à quelque chose de si exceptionnel, de si fou, de si impensable, il me semblait bon que je cherche en moi quelque chose d'impensable, que je cherche en moi quelque chose que je n'ai pas. Ce n'est pas avec du talent qu'on raconte ça, c'est avec quelque chose d'autre. Et alors ce jour-là, et ça commence comme ça, le livre, ça commence sur une panne, en fait. C'était impossible, en fait. Et en essayant d'écrire ma chronique comme tous les soirs, ce soir-là, dans un café en face du palais de justice, là-bas, à la porte de Clichy, d'habitude, je sortais mon petit ordinateur, je commandais un petit verre de vin, et puis je dis pas que c'était facile. Mais je maîtrisais à peu près la chose. Et dès le quatrième jour, je crois, enfin, je me suis effondré, quoi. Et le livre raconte comment est-ce qu'on arrive à renverser un effondrement. Je ne sais pas comment on fait, mais je l'ai fait. Comment est-ce qu'on trouve les mots ?
Vous l'avez fait en passant par un rituel au cœur de la nuit auquel vous vous êtes livré. Je voudrais quand même qu'on parle de cette nuit qui a suivi cette projection des images, parce que pour le romancier que vous êtes, me semble-t-il, il y a eu tout à coup l'éruption d'images dont j'ai presque envie de dire qu'elles étaient interdites et que ça vous a presque conduit au seuil de l'abandon. Ça a mis l'écriture en échec, ça vous a précipité, vous, vers des gouffres. Vous avez fait, pour reprendre le mot de ce philosophe que vous citez, Maître Eckhart, vous avez fait le saut vers l'intérieur, et s'en est suivi une nuit totalement kafkaïenne ou dostoïevskienne, ou peut-être même qu'on pourrait trouver dans le Maître et Marguerite, puisque à un moment donné, vous n'êtes pas loin du théâtre de l'Odéon, et vous vous souvenez avoir vu là-bas le Maître et Marguerite de Bulgakov, quelque chose de surnaturel, quasiment. Qu'est-ce qui se passe cette nuit-là, Yannick Hennel, après justement être sorti du palais de justice, avoir enchaîné les verres de vin au café de l'industrie, être rentré chez vous un peu hagard, qu'est-ce qui se passe ?
Alors, ça a été une nuit comme on en vit assez peu. Enfin, je vous en souhaite pas, et je m'en souhaite pas de nouvelles. Mais en même temps, c'était une nuit prodigieuse, oui, parce qu'elle m'a mis face à moi-même, enfin, et face à plus grand que moi. Pour le dire comme ça un peu bêtement, mais il se trouve que c'est l'expérience que j'ai faite, il y avait du démoniaque, quoi, voilà. J'ai pas pensé à Bulgakov pour rien. C'est que d'avoir vu la scène de crime, d'avoir vu les frères Kouachi surgir, enfin, sur l'enregistrement, et tirer sur quelqu'un que je connais, ce jeune homme, Simon Fieschi, qui en est revenu. J'ai été littéralement assailli par ça. Mon empêchement était dû évidemment à l'émotion, à la responsabilité aussi, comme j'en parlais, de trouver les mots pour dire ça, mais surtout à quelque chose qui était comme une emprise. J'ai rarement senti ça, en fait, qu'on m'étouffait, enfin, qu'il y avait quelque chose de toxique, que le néant était en train de m'absorber. Et moi, je trouve que l'empêchement, souvent, enfin, en tous les cas, quand on écrit, c'est plutôt quelque chose comme un... Enfin, je veux dire par là que l'obstacle, c'est la moindre des choses. Enfin, il s'agit de négocier avec ses propres empêchements, avec le langage, pour trouver le langage, pour aller pour faire ce saut ardent vers l'intérieur, comme vous dites, là, en citant Eckhart. Sinon, c'est de la communication. Le langage, on l'a à disposition, très bien, mais bon, c'est pas... Mais moi, je cherche autre chose. Je cherche à traverser le mur. Mais cet empêchement-là, il était d'une autre nature. Il m'a complètement paralysé et je me suis mis à faire des choses qui étaient incontrôlées. Je me suis carrément saoulé la gueule. Ça, il m'arrive de le faire gentiment, joyeusement. Mais là, c'était... je savais très bien que ça allait m'empêcher d'écrire, alors que je devais rendre le papier. Enfin, je ne pouvais pas leur faire ça, de ne pas l'écrire. Et... J'ai dû me mettre dans un état, je ne sais pas pourquoi, au plus bas, vertigineux, enfin, où je suis tombé dans la nuit, enfin, comme une loque. Je suis en marchant à pied dans Paris, j'habite très loin en banlieue. Et il s'est passé quelque chose, c'est qu'à un moment, effectivement, en allant me coucher, en rejoignant ma femme, je me suis dit, je me suis repris, voilà. Et effectivement, la seule chose face au diable qui marche, qu'on croit ou qu'on ne croit pas, enfin, moi, je ne saurais pas dire si je crois ou pas, on s'en fout, c'est un surcroît de rituel, c'est un surcroît de sacré, un contre, une espèce d'exorcisme. Et ça, j'aime bien l'exorcisme. L'écriture, c'est quand même faire face aux ténèbres, quoi, de manière générale. Là, elles étaient beaucoup plus qualifiées, beaucoup plus dures. Et donc, il s'est passé plusieurs choses. Évidemment, je n'arrivais pas à dormir, donc je suis allé chercher dans ma bibliothèque, j'ai des idées comme ça parfois, des lubies, quoi. Je me suis souvenu qu'il y avait un petit texte de Kafka qui s'appelle « Devant la loi », et que c'était à la fois dans le procès, enfin, c'est glissé comme un texte comme ça dans le roman, mais c'est aussi une petite nouvelle, en fait. Et je me suis dit, tiens, il faut que je relise ça, au fond, ça peut peut-être m'éclairer, ça. Et avec ma lampe de poche, pour ne pas réveiller chez moi ma fille, ma femme, j'ai cherché dans la bibliothèque, j'ai trouvé le livre. Et il y avait un clair de lune, début septembre, je suis allé dans le jardin le lire. Et bon, j'étais encore un peu pété, quoi. Enfin, bien ivre, mais du mauvais alcool. Donc je lisais ça, bon, très bien. Et il se trouve que dans cette petite parabole extraordinaire de Kafka, je ne veux pas être trop long.
Mais il faut raconter cette histoire parce qu'elle est incroyable.
Je ne sais pas si vous vous souvenez, si vous l'avez lu. Enfin, j'ai beau le lire sans cesse, chaque fois ça s'efface et ça se réécrit, c'est stupéfiant. Kafka, lui aussi, est un maître des ténèbres, enfin, comme Dostoïevski, comme les autres. Et il raconte l'histoire d'un homme, c'est un campagnard qui vient à la ville pour une affaire. Il est convoqué au palais de justice. Et devant la porte ouverte du palais de justice, il y a quelqu'un, un gardien, qui est assis. Et le campagnard est intimidé par le gardien et par la justice elle-même. Enfin, il n'ose pas entrer, voilà. Mais il voit cette lumière, enfin, qui l'éblouit. Et il attend. Et il attend qu'on l'autorise à entrer parce que la loi tellement pesante, enfin, qu'il se dit, le gardien va me dire quand ce sera le moment. Et il voit des gens entrer, mais il n'ose pas y aller. Des années se passent, c'est une parabole, hein. Il vieillit. Et à la fin de sa vie, il demande au gardien, mais pourquoi les gens entrent, mais pas moi, enfin. Et il lui dit quelque chose comme, La porte était ouverte, elle était ouverte que pour toi. La loi n'existe que pour qu'on y entre. Voilà, il fallait y aller. Le simple fait que tu attendes ou que tu me demandes faisait que tu ne pouvais pas entrer. Bon, je le raconte mal, mais c'est d'une profondeur inouïe. Mais en lisant ça, je ne sais pas, quelque chose s'est un peu clarifié. En fait, cette lumière-là, la lumière de la justice, ça m'a plu. Et j'ai été pris d'un... Je sais pas, on trouve parfois des gestes, au fond, qui ont l'air comme ça, d'un bricolage du sacré pour soi-même. C'était le Pléiade, je me souviens. J'ai arraché la page du Pléiade. Bon, je te passe après. De toute façon, cette nuit est complètement dingue. J'ai arraché la page du Pléiade. J'avais ma bouteille, là. Il y a le chat qui était à côté, qui peut en témoigner. J'ai fait une boule avec la page de Pléiade. Vous savez, c'est tout fin, c'est du papier Bible, comme on dit. Je l'ai prise, et au goulot, j'ai avalé. Et je me suis dit, ça va peut-être m'aider. Quand je vous raconte ça, je me dis, mais qu'est-ce que... Pourquoi j'ai fait ça? Et ben voilà, il y a eu ça. Il y a eu autre chose. J'ai pensé, puisque j'avais commencé dans l'ordre de la ritualisation, j'ai creusé un petit trou dans le jardin avec une cuillère, parce que je me souvenais que dans Homère, quand on parle aux morts, c'est la Nekouia, vous vous souvenez, quand Ulysse veut susciter les morts, il veut parler à Tirésia. Il fait un sacrifice de bœuf. Bon, je n'avais pas tellement de bœuf ni de moutons sous la main. Et puis bon, je trouve qu'un sacrifice, c'est l'invisible lui-même. Enfin, l'écriture, c'est un sacrifice. Et j'ai creusé un petit trou et j'ai mis une rasade de vin dedans, un peu d'eau aussi. Le chat me regardait, disant, décidément, qu'est-ce qu'il fout cette... Mais tout ça m'a aidé. Ce sont des gestes dont l'aberration même devient intelligible pour qui s'y rend disponible. Voilà, ce sont des éclairs dans la nuit. Je suis rentré, il était 4 heures du matin à peu près, je suis rentré chez moi, dans la maison. Enfin, j'ai ouvert mon ordinateur une fois de plus, il y avait seulement le titre, « Endurer la tragédie à l'infinitif ». Et là, il y avait le halo de la lune qui faisait comme un rectangle blanc dans le salon où j'écris, parce que je n'ai pas de bureau. Et j'ai vu le prétoire, en fait. J'ai vu la barre où les témoins viennent parler. Et j'ai écrit d'une traite pendant 3 heures jusqu'à 7 heures du matin. Tout, ça a ruisselé comme ça depuis, grâce à Kafka, grâce au vin. Je sais pas, j'étais plus sous. Ça allait très bien. J'avais inversé la chose. Bon, je raconte ça qui est aussi une comédie. Vous voyez, c'est comment on désamorce les choses.
Mais c'est-à-dire, c'est cette nuit-là aussi que vous avez décidé que les chroniques, vous les écririez à 4 heures du matin, pour livrer la chronique à 7 heures du matin, que ça allait être aussi ça, le rituel. Oui. Et moi, je me suis demandé quand même, parce que je trouve très important ce qui s'est passé cette nuit-là, si d'une certaine manière, avalant cette page de Kafka, vous n'aviez pas consenti, vous qui êtes un homme de la littérature, mais vous n'aviez pas consenti à plus que la littérature. Parce qu'il faut savoir qu'Yannick Enel, dans les doublures de ses vestes, quand on lit le récit, on l'apprend, il coud à l'intérieur des doublures de ses vestes des extraits de mots qui l'accompagnent. Là, je crois que c'est le livre de Job qui... je ne sais pas si c'est cette veste ou une autre, mais... Donc c'est un homme qui se donne à la littérature. Et je ne parlais pas de Dostoïevski par hasard. Il y a une forme de possession. Est-ce que cette nuit-là, consentant à être possédé, vous avez du coup, je ne sais pas, été pris par la littérature au-delà même de ce que vous supposiez, au-delà même de ce qui vous était jamais arrivé.
Mais c'est juste parce que durant les premiers jours, effectivement, des audiences, je me suis interdit de faire de la littérature, comme je me l'étais interdit il y a bien des années pour écrire sur Yann Karski, qui passe en rapport. Il s'agit vraiment de témoigner pour les témoins. Et ça a été une erreur parce que la littérature, c'est pas que le petit supplément d'âme, c'est pas non plus nécessairement de la fiction. La littérature, c'est aller au plus près de la dimension intérieure du langage. C'est à la fois être possédé par elle et se déposséder. Et c'est vrai que cette nuit-là, j'ai vu que, ben, en m'inséminant, si je puis dire, en me faisant une infusion de Kafka, ben, qu'il fallait que j'aille dans ce sens-là, au fond, que j'étais simplement une oreille, enfin, qu'il fallait écouter le langage. et j'ai raconté voilà, ce que je voyais. Et surtout, je me suis dit, au fond, peut-être qu'en racontant ce que ça me fait, puisque je suis là dans un lieu où les gens ne vont pas venir, en plus, il y avait le Covid, c'était interdit au public, il y avait des attentats qui étaient en cours, enfin, il y a eu 3 attentats pendant ce procès, donc, alors que les cours d'assises sont ouvertes normalement au public, mais là, même les scolaires que j'avais commencé à recevoir les jours précédents, plus personne ne venait. Et donc, je me disais, il faut que je sois un moment de la transmission de ce qui se dit. Depuis cette scène de crime, que j'avais malheureusement revue, grâce aux témoins et aux survivantes, Ségolène Vinson, Coco, qui parlaient, moi je les entendais, je prenais des notes. Et je me disais, c'est à moi de rapporter ça. Il y a des journalistes aussi qui l'ont fait très bien. Mais moi, j'avais cette chance, étant délégué par Charlie Hebdo, d'avoir sur le web toute la place que je voulais. Il y a des jours, j'ai écrit 10 pages, en fait. Et d'autres, une petite. Et je me suis dit, je vais parler à la première personne. Voilà, je vais m'autoriser ça. C'est une première personne, je ne sais pas si ça existe, ce que je vais dire, une première personne sans subjectivité, sans gras, comme ça, je racontais rien de moi, mais je disais « je », c'était un « je » qui témoignait des impacts, en fait. Et effectivement, je pense que s'il y a une vocation à la littérature, elle est multiple, cette vocation, elle peut être même contradictoire, en tous les cas, elle a consisté, durant ce temps-là, à se rendre disponible aux autres, à redonner aux autres un visage et une voix, parfois même à je ne dis pas à redire mieux ce qu'il disait, mais à entrer dans la béance qu'ouvrait chez certains témoins qui venaient parler le fait d'essayer de raconter. En n'y arrivant pas, il disait plus que si on y arrivait. Et moi, justement, je devais redonner, je n'ai pas amélioré du tout, je devais redonner cette défaillance comme étant la vérité même des choses, au fond. Et ben, la littérature, c'est ça, on a tous lu Beckett, enfin, je ne sais pas, moi, je me sens aussi l'héritier, entre autres, de Beckett, enfin, l'héritier, pas direct, mais je fais ce que je peux. Mais Beckett fait partie, après Kafka, de ces écrivains qui ont su loger ou déloger, je ne sais pas le langage, d'un lieu où il n'avait pas l'air possible. En écoutant pendant 3 mois et demi des gens qui revenaient d'un lieu de mort, enfin d'un lieu où vous avez failli être tué, où vous avez été blessé, j'ai vu qu'ils étaient allés là, en fait, et que pour eux, pour elles et eux, le fait d'essayer de témoigner d'un massacre, c'était d'abord impossible. Puis finalement, il y avait quand même des mots. Et à travers ces mots, le plus souvent très fragiles, il y avait une intensité stupéfiante. La littérature, c'est la même chose. Donc c'était comme une mise en abîme de ce qui a lieu dans les livres. Enfin, moi, j'étais là pour enregistrer ça. Donc je me suis mis aussi, je n'ai même pas eu besoin que ce soit volontaire, hein, parce que ça m'a tellement fragilisé, je me suis mis dans cet état-là. Et alors même que pendant longtemps au début, j'essayais d'obéir à mes proches qui me disaient « mais préserve-toi, enfin, fais gaffe, enfin, ne dépense pas trop de force », j'ai vu que c'était tout le contraire qu'il fallait faire. Enfin, je ne sais pas s'il fallait, mais moi j'ai fait ça. Je me suis dépensé à fond, je me suis épuisé, j'ai presque pas dormi pendant 3 mois et demi, je peux vous assurer qu'une telle chose est quasi possible. Et de fait, effectivement, je dormais un petit peu et je me réveillais à 4 heures. Et à 7 heures pile, je remettais le texte que j'envoyais tout de suite sur Internet. Et de cette hypersensibilité que j'avais développée, j'en ai fait, enfin, j'espère, une espèce de réceptacle de force pour entendre, pour supporter les autres et les entendre, en fait.
54 audiences, je crois.
Ouais, 54.
Plus de 450 heures passées... Dans la cour d'assises.
Alors, je ne me souviens plus, mais je crois.
Je crois que c'est ce que vous écrivez avec le dessinateur Bouc,
François
Bouc, Charlie Hebdo, et tous les journalistes et tous ceux qui étaient là. C'est très étrange ce que vous dites, Yannick Hennel, sur la manière dont vous vous êtes mis à l'écoute de la béance ou des défaillances de la parole des témoins, parce que je ne sais pas si vous connaissez cette théorie qui dit que pour savoir quel est le nœud d'un livre, il faut l'ouvrir à la moitié. Et c'est là qu'on trouve un des enjeux primordial du livre. Alors, bon, je reviens, moi, je n'ai pas le livre physiquement, je l'ai sur ma tablette, mais à la moitié de ma liseuse, on tombe sur le moment où vous racontez le témoignage et la prise de parole des terroristes. Et vous parlez, et c'est très intéressant, de leur façon de s'exprimer, et vous parlez de la corruption du langage, du mensonge, du masque, de la dissimulation, des feintes. Et vous employez ce mot incroyable qui est « langage corrompu ». Donc je me dis qu'en fait, et c'est pour ça aussi que je vous disais, ce livre, on n'en sort pas exactement de la même manière, il me semble que la littérature est aussi au centre même de notre solitude. Il y a évidemment le procès, et ce n'est pas un alibi, et ce n'est pas un argument, mais vous avez fait de la littérature aussi presque l'objet de ce procès.
Mais oui, parce que les procès, a fortiori une cour d'assises, enfin, c'est un lieu de langage. C'est un lieu. Alors, j'ai découvert à quel point. Je ne connaissais pas l'univers des tribunaux, je ne suis pas du tout un chroniqueur judiciaire. J'ai découvert à quel point c'est un lieu démocratique, donc un lieu politique, un lieu où la parole s'orchestre et se donne, se reprend, s'échange. Et tout n'est que langage. Comme dans ma vie, enfin comme dans notre vie, mais moi je passe mon temps à ça et mes nuits. Et donc ça m'a entièrement passionné. Et il se trouve que j'ai, comment dire, par nature, par amour, et là en l'occurrence par peine, par dépit, j'entendais de manière très nerveuse, enfin, les langages qui était à l'œuvre sans cesse. Et il se trouve effectivement que les accusés, que j'écoutais aussi passionnément, enfin, et il y en a certains dont je peux dire que je les aimais bien, en fait. Parce que moi, je me sentais très tranquille, je disais les choses comme je les entendais, je n'étais pas là pour dire, pour faire la justice, j'étais là pour la justesse, ce qui n'est pas, déjà pas évident. Enfin. Mais il se trouve que l'usage de la parole, enfin, c'est-à-dire le rapport que nous avons tous avec le langage, dit tout de nos rapports avec l'être. Et il n'y a pas besoin d'être psychanalyste pour ça, enfin, on le sait. Enfin, c'est un rapport très compliqué, c'est pas un rapport de transparence qu'on a avec le langage, mais il n'empêche que ça dit vraiment tout de notre engagement dans l'être. Et de manière folle, enfin, les accusés ne travaillaient que dans la prestigitation. Pour une raison qu'on peut comprendre. Ils essayaient de sauver leur peau. Donc, ils n'allaient pas dire « Oui, c'est vrai, j'ai tué des gens. D'ailleurs, je vous emmerde. » Il y avait des registres de dissimulation auxquels je n'ai jamais assisté. C'était même un spectacle, je dois dire. Quand je parle de corruption, c'est au sens où certaines des paroles, certains des usages qui étaient exposés, exhibés, certains des usages du langage étaient entièrement souillés. Je le ressentais, j'étais tellement concentré, et je ne dis pas que c'est vrai, c'était mes sensations, je le ressentais de manière écœurante, enfin. Et de même qu'il y a eu de faux témoins qui sont arrivés à la barre, ça se sentait tout de suite, des gens qui venaient se la jouer, quelqu'un qui a fait croire qu'il était là pendant le massacre de l'hypercacheur, enfin, des choses inouïes, enfin, pour tirer la couverture à lui. Et donc la souillure à l'œuvre, elle vient de, enfin, si j'osais, je dirais que toute parole prononcée à chaque instant sur Terre par qui que ce soit, par nous, pèse comme ça. Les kabbalistes, les maîtres hassidiques, la kabbale extatique juive dit des choses comme ça. Toute parole fait basculer l'univers dans un sens ou un autre. Dire quelque chose de dégueulasse, ben, ça ne se dit pas impunément. Ça a une conséquence sur l'ordonnancement de l'univers. De la même manière que les maîtres hassidiques juifs disent que le langage tient parce que des enfants ne cessent de réciter l'alphabet, ne cessent d'apprendre le langage. C'est très beau d'ailleurs. Enfin, moi je pense que toute parole a une responsabilité. Et là je le sentais de manière quasi hystérique. Enfin, c'était épouvantable. C'est pas qu'il parlait mal. On s'en fout de bien écrire, bien parler, etc. C'est pas une question de vocabulaire ou de grammaire ou d'éducation. C'est un rapport ontologique à la parole. utiliser la parole pour faire du mal ou autre chose.
C'est presque un rapport éthique. C'est d'ailleurs un mot qui revient souvent dans le livre. Vous dites, Yannick Enel, j'étais là pour la justesse et pas pour la justice. Moi, il me semble quand même que la justice est quelque chose qui est entré dans votre vie, dans votre écriture, dans votre sens des responsabilités de manière extrêmement importante, que ce mot vous en pesait, enfin ce concept plus exactement, cette réalité, vous en pesait absolument tous les tenants et tous les aboutissants. En tout cas, vous tendez vers ça et que vous avez placé la barre assez haut parce que vous dites, je cherche à l'intérieur de la parole ce point où les vivants et les morts se rencontrent. C'est ma définition de la justice. Écrire, ce serait rendre justice ou tenter de rendre la justice.
Alors, je ne le dirais pas comme... Enfin, je dirais... J'oserais pas dire ça, mais peut-être que ça peut transpirer à travers ce que j'écris, parce que ça semble presque trop grand, enfin presque mégalomaniaque. Mais rendre justice, je ne sais pas, mais enregistrer quelque chose de la justice. En tous les cas, une chose est sûre, c'est qu'à un moment, à force de réfléchir sur la justice, d'être là, d'écouter, enfin, parce qu'évidemment, quand on est pris passionnément dans un procès et qu'on est quasi partie civile, parce que Charlie Hebdo, ce sont mes amis. Enfin, moi, je suis un chroniqueur extérieur, mais quand même, je les connais. À force d'y réfléchir, on réfléchit, on suit passionnément ce procès, on attend des choses, on attend que des éclaircissements, voilà. Peut-être de l'apaisement aussi, je ne sais pas. Et j'en suis arrivé effectivement à me dire, mais peut-être que la justice, le lieu où s'exercent toutes ces paroles en vue de la connaissance de la vérité, comme disent les juges, de l'établissement de la vérité, peut-être que ça a à voir avec notre capacité ou non à maintenir un rapport avec les morts. Parce que durant cette première nuit un peu délirante, où j'ai essayé d'obtenir de moi un renversement, enfin, et aussi des effets pour écrire, pour entendre, mais également pendant tout le procès, je voyais bien, j'entendais bien que les morts étaient là, en fait. Parce que pour peu que quelqu'un vienne à la barre parler, parce que les familles venaient, enfin, pour peu que quelqu'un vienne et parle, ceux dont on dit qu'ils sont morts existent à nouveau, le temps de la parole. Le langage est un lieu où les morts et les vivants se mêlent. Enfin, et au théâtre, on sait ça. Enfin, c'est un lieu où l'invisible, et a fortiori, c'est l'un des projets d'Arthur Nosiciel, enfin, très explicite. Il est l'un de ceux qui font ça le plus radicalement. Enfin. Il m'est arrivé certains jours, enfin, et à force, disons, puisque c'était une expérience d'endurance aussi. On était tous pris dans cette communauté de l'endurance. Il y a un moment, on se disait, quelque chose va en sortir. Enfin, la justice, là, je ne sais pas quoi, la vérité. Je me suis dit, ben, la justice, c'est peut-être... je ne parle pas de chamanisme. C'est peut-être, de manière très simple, enfin, le lieu, et il n'y en a plus beaucoup dans la société, où les morts et les vivants sont ensemble, puisqu'on les invoque. Puisqu'on parle d'eux, puisqu'on essaye de, je ne sais pas, le mot réparer est un peu trop à la mode, mais c'est un beau mot quand même. Parce que sauver, c'est exorbitant, mais réparer, c'est déjà pas mal. Rédimer, j'aime bien. Donc effectivement, bon, moi, je le dis, je crois que je le dis dans le livre, je fais partie de ces gens qui, quand ils passent devant un tribunal, ils se sentent pas à l'aise, ils se sentent même un peu coupables. Voilà. Je n'ai pas très bon, j'ai un rapport un peu puéril, disons, avec la justice. Et là, ben ça m'a transformé, tout simplement. Voilà. Je pense maintenant, moi qui me sens en deuil du politique, j'ai été très militant pendant très longtemps, et maintenant, je sais pas, j'en ai marre, quoi. C'est pas bien, mais j'en peux plus. Et ben la justice, les lieux. Parce que c'est pas la justice, c'est pas un concept comme ça. Les lieux où on travaille à ça, tous les jours, toutes les nuits, je me dis que c'est là que ça a lieu, la politique, c'est-à-dire le fait de s'occuper du commun, de la communauté, du commun, enfin, de parler des autres comme si c'était nous, enfin, et encore mieux que si c'était nous. Il y a l'école. J'étais prof pendant longtemps et c'était ma politique. Mais la justice, j'ai découvert très tardivement, et je m'en excuse, à quel point c'est un lieu où non seulement on prend soin du langage, puisque tout passe par le langage, mais où le langage, mais d'où, enfin comment dire, mais où à partir du langage on peut faire naître quelque chose. Voilà. Le langage, la parole peut redonner vie à la parole sans cesse.
Le récit est aussi l'endroit qui va permettre, et donc forcément l'endroit qui va permettre cette cohabitation des vivants et des morts. Vous avez, on va y revenir, vous avez eu un entretien, vous avez donné un entretien avec Delphine Horviller qui a été titré « La justice et le pays du récit ». Et dans le récit, Diane Kennel sont entrelacés ou articulés des événements dont nous avons été au courant, mais que nous n'avions pas fait les liens. Et il y a notamment une histoire assez étonnante et incroyable et à la fois effrayante et en même temps assez belle aussi, c'est l'histoire de Zari Siboni à l'hypercachère de Vincennes. C'était une caissière de l'hypercachère de Vincennes. Je le raconte en deux mots, mais je voudrais que vous nous en parliez, Yannick. Le terroriste qui était donc...
Hamedi Coulibaly.
Coulibaly lui tire dessus, la rate, et lui demande de descendre en bas... faire remonter ce qui serait en bas d'hypercachère. Elle descend, elle comprend qu'il y a des gens qui se sont enfermés dans la chambre froide. Elle fait comme si elle n'avait rien vu, elle remonte. Il lui demande de descendre le rideau de fer et là, il se passe cette chose épouvantable qui est qu'un homme essaye de rentrer dans le magasin parce qu'il a un truc à acheter. Il lui dit « je n'en ai pas pour longtemps ». Elle essaye de le dissuader, enfin de lui faire comprendre qu'il ne faut pas qu'il rentre. Il rentre, il est immédiatement abattu. Et vous dites de cette femme, elle a fait le lien entre le bas, le monde d'en bas, et le monde d'en haut. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il a fallu qu'elle redescende et sans remonter avec elle quelques-unes des personnes qui s'étaient réfugiées dans la chambre froide. Et en lisant votre récit, on voit comment tout ça s'articule, comment tout ça se coagule, comment effectivement vivant et mort cohabitent. La mort à l'œuvre, le vivant qui résiste. Enfin, et ça, c'est le récit. C'est peut-être la justice, mais c'est aussi le récit, et c'est votre récit, Yannick Kennel.
C'est vrai que je fais coïncider des grands mots. Et je pense que la littérature, ça consiste à dénouer à nouveau, à redonner de la nuance à des mots qu'on croit éculés. Enfin, alors en l'occurrence, effectivement, là, le témoignage de cette femme, Zari Siboni, qui venait spécialement de Jérusalem pour parler.
Où elle vit maintenant.
Où elle vit maintenant.
Elle a décidé d'aller vivre.
Voilà, elle a juste après. C'était une caissière, l'une des deux caissières de l'hypercachère, assez jeune à l'époque, elle avait 23 ans. Et après, elle a accompagné les morts juifs, français, qui sont tous enterrés à Jérusalem. Elle les a accompagnés parce qu'elle n'arrivait plus à les quitter. Certains ne les connaissaient pas, c'était des clients. Et elle y est restée à Jérusalem. Il y a 10 000 choses, je pourrais parler de Zari Siboni, j'en parle énormément dans lui pendant très longtemps, enfin, et rien que de penser à elle, ça me renvoie à des choses voilà, immenses. J'ai vu en elle, parce que je l'ai écoutée, et je sais qu'elle a parlé, et ça c'est stupéfiant, elle a parlé autant de temps à la barre ce jour-là qu'a duré la séquestration des juifs ce jour-là par Hamedi Coulibaly à l'hypercachère, c'est-à-dire 4 heures et quelques minutes. Elle n'a pas fait exprès, évidemment, mais c'était sidérant. Enfin, on s'en est rendu compte avec mes copains de Charlie le soir, parce que moi, j'écrivais l'heure sur mes cahiers à la main, des prises de parole. Et effectivement, ce lieu, comme vous dites, où ils ont dû les vivants ont dû cohabiter avec ceux qui étaient flingués au fur et à mesure par Coulibaly devant eux, dans les rayons de ce magasin. Comment dire ça ? La cohabitation des vivants et des morts, ça ouvre à quelque chose, qu'on le veuille ou non, qui s'appelle le sacré. Voilà. Le sacré qui est aussi une chose terrible, enfin, c'est ce qu'il y a de pire. Enfin. Mais c'est aussi ce qui sauve, c'est l'ambivalence. Enfin. Cette femme m'est apparue dans le rapport justement qu'elle avait, un rapport très simple et assez cru à la parole, m'est apparue porteuse, elle était habillée tout en blanc d'ailleurs, porteuse d'une innocence comme rarement j'en avais vu. Parce que l'innocence, qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que ça se prouve ou non ? Enfin, je ne sais pas. Là, il y avait quelque chose d'irréductible en elle. Et de fait, elle a raconté plusieurs fois, vous l'avez dit, mais c'est arrivé plusieurs fois, que l'autre, la Coulibaly, lui a tiré dessus, mais la mort n'est pas passée par elle. Bon, il tirait comme un pied, certes, mais il n'est pas arrivé à l'atteindre alors qu'il a tué des tas de gens. Et à un moment, il lui dit, je me souviens, il lui dit, t'es encore là, toi ? Et il lui a demandé, à un moment, elle devenait son interlocutrice, et il lui a demandé, du coup, puisqu'elle était là, elle était la seule qui se dressait encore dans ce lieu innommable, enfin, il lui a demandé, effectivement, d'aller vérifier en bas, puisque beaucoup de clients de l'hypercachère et des gens qui y travaillaient s'étaient réfugiés dans les chambres frigorifiques, et il lui a demandé d'aller voir s'il y avait des gens encore en bas. Il lui a dit, t'as pas intérêt à mentir, sinon je te bute. Enfin bon. Elle y est allée, elle les a vus, elle les a aidés à se cacher, elle est remontée et elle a dit à Koulibaly, il n'y a personne. Bon. Et à partir de là, ce qu'elle racontait, ça a été stupéfiant parce que c'était, on voyait à travers ces mots ce lieu labyrinthique avec un monstre au milieu. Et moi, je voyais, je n'ai pas projeté ça, mais c'était pour mieux l'entendre, je voyais vraiment Perséphone, vous vous souvenez, enfin, celle que Hadès a captée, en italien on dit la ragazza indicibile, la jeune fille indicible, c'est la plus belle des nymphes, hein, et elle cueille des fleurs, et Hadès, donc la mort, veut cette femme, la prend, et l'emmène dans les souterrains. Et la mère de Perséphone va négocier avec Hadès, puisque elle n'est pas n'importe qui, c'est Déméter. Et ils vont se mettre d'accord sur le fait que Perséphone sera dans le monde d'en bas 6 mois par an, et quand il la redonnera à sa famille, 6 mois par an sera le printemps, la fertilité, etc. Et c'était stupéfiant parce que j'en tremblais, moi. Enfin, ce qu'elle racontait était éminemment spirituel. Enfin, plus grand qu'elle, plus grand que nous tous, elle n'arrêtait pas de dire, elle a dit un moment, je descends dans le monde d'en bas, il y avait ceux d'en haut, ceux d'en bas, les témoins, les survivants disaient, je faisais partie de ceux d'en haut. Au Bataclan, ça a été pareil, en fait. Il y avait ceux qui disaient, j'étais parmi ceux d'en haut, mes amis étaient en bas, etc. Et c'était vraiment quelque chose qui venait témoigner pour nous de l'enfer, enfin. D'un lieu où il est impossible de respirer. Et elle, il a fallu que je m'aide de mes lectures, parce que j'avais mon bon vieux manteau bourré de livres, parce qu'à midi, je m'isolais, j'avais besoin de, je sais pas, lire Kafka, voilà. Simone Veil, j'avais tout, parce que c'est ma passion de lire tout le temps. Et je trouvais des phrases que je mettais dans le texte, enfin. Qui me donnait des yeux plus grands et des oreilles plus fortes. Et je ne sais plus ce que je voulais dire, mais voilà, j'ai décrypté. C'était comme faire une exégèse biblique ou talmudique, je ne sais pas. Enfin, c'est au-dessus de mes moyens, mais j'ai décrypté que j'ai eu l'intuition que ce qu'elle nous disait, ce n'était pas que ce qu'elle nous disait. Il lui était arrivé quelque chose qu'il avait arraché à elle-même. D'avoir défié la mort à ce point-là, d'avoir côtoyé quelqu'un qui était investi par du démoniaque, parce que tous les témoignages ont convergé vers le fait que, autant les frères Kouachi, c'était vraiment deux imbéciles, deux tarés, autant Hamidi Koulibaly avait des yeux et n'a cessé de dire « moi j'aime la mort, vous êtes misérable parce que vous aimez la vie, vous n'avez rien compris ». La mort seule est quelque chose, je ne sais pas quoi. Bon. Dans son fanatisme dévié et morbide, enfin, il y avait quelque chose de, quand même d'une puissance, pour le coup, qu'elle a défié, elle.
Il avait un visage de cire, a dit, je crois, oui. un des survivants qui l'a oui. approché de près. Il avait un visage de cire oui. Oui, et oui. des yeux qui, effectivement, étaient hors de
globuleux, oui. Oui, oui.
Hors de lui-même.
Il était dans un état, lui aussi, était entre les deux mondes. Parce qu'il s'agit de ça, il s'agit vraiment de l'entre-monde. Dans ce procès, on a accédé, comme Emmanuel Carrère a pu le raconter plus récemment de son expérience au Bataclan, on accède grâce à des témoignages, à des choses qui sont sidérantes, parce qu'elles nous... À la fois, elles disent ce qu'il y a de pire dans l'humanité... Mais paradoxalement, elles agrandissent l'humanité également parce que bah, tout simplement, elles sont transmises. Enfin, moi, je ne perds jamais ça de vue. Enfin, que ça, je ne sais pas si c'est utile, mais c'est transmis. D'avoir rencontré cette femme-là, à qui je n'ai pas osé parler, rencontrer au sens d'entendre, de me consacrer à sa parole, de la commenter pendant plusieurs jours, je suis revenu là-dessus, de la prendre au sérieux comme si c'était une philosophe, tous ses propos, je les ai décryptés, de leur donner une hauteur qu'elle avait, ça m'a élargi, voilà. Ça m'a...
Est-ce que vous avez l'impression...
Ça m'a fait follement du bien.
Est-ce que vous avez l'impression, Yannick, d'avoir résolu d'une certaine manière l'interrogation de Paul Celan qui témoigne?
Ah, oui.
Pour le témoin, il faut qu'on parle de cette position-là, du témoin. Vous avez eu donc un échange, je le disais, avec Delphine Horviller, qui vous dit la puissance, et je crois que ça vous a beaucoup aidé aussi à comprendre, la puissance ne peut pas témoigner, seul le cassé peut raconter le cassé. Je ne crois pas avoir fait d'erreur de transcription. Seul le cassé peut raconter le cassé et pas le passé. Ce qui est valable pour les témoins est aussi valable pour les témoins des témoins.
Là, il y a beaucoup de choses, effectivement. Je vais commencer par des choses anecdotiques. C'est la raison pour laquelle je me suis retrouvé un soir pendant le procès. Normalement, je rentrais chez moi tout de suite. Je buvais aussi beaucoup pour m'assommer. Je n'en pouvais plus de ce que j'avais entendu dans la journée. Et puis, je me réveillais à 4 heures et c'était reparti. Bon. Mais il se trouve qu'un jour, Delphine Horviller, que je connaissais à peine, mais que j'admirais, m'a écrit, comme beaucoup de gens m'ont écrit, ils ont écrit à Charlie Hebdo pour dire, je ne sais pas, tiens bon, c'est bien, on te lit. Et comme je vous le disais tout à l'heure, ça, d'habitude, je recherche pas spécialement ça, ça fait toujours plaisir, mais voilà. Là, ça m'a aidé à tenir debout. Enfin, c'était chaque mot me soulevait. Et d'un coup, effectivement, je reçois un message de Delphine Horviller qui me raconte qu'elle avait utilisé précisément ce à quoi vous faisiez allusion, c'est-à-dire une de mes chroniques où je parlais du monde d'en bas et d'en haut dans la bouche de Zary Siboney. Elle l'avait utilisé dans l'un de ses prêches, je ne sais pas si on dit comme ça, puisqu'elle s'occupe d'une communauté à Paris, puisqu'elle est rabbin, enfin, rabbine, je ne sais plus, je crois qu'elle dit rabbine. Et à l'occasion d'une grande fête juive, je crois que c'est celle du pardon, elle a cité, elle m'a dit, voilà, j'ai lu votre texte, parce que le monde d'en bas, le monde d'en haut, pour nous, c'est très important, c'est... Voilà. Et je lui ai écrit, on s'est donné rendez-vous. Elle m'a dit, si vous avez la force, un de ces soirs, venez boire un verre. Bref, je me suis retrouvé à discuter avec elle et avec un ami qui était un intermédiaire, Stéphane Habib, qui est psychanalyste et philosophe. Et je venais de me casser deux côtes, parce que durant tout ce procès, je n'ai cessé, et là, c'est l'inconscient à l'œuvre, mais c'était le procès qui faisait effet sur moi. Je m'étais cassé le coccyx très vite en descendant l'escalier chez moi, entre ma chambre et puis le lieu où j'écris. Bon, très bien. Résultat, j'étais comme un petit vieux au tribunal parce que je mettais plein de coussins. Et je me suis cassé deux côtes en jouant au foot avec des enfants le dimanche. Et comme vous savez, c'est assez douloureux. Bon, bref, j'étais là, je me disais, j'y arriverai plus, quoi. Et le soir, chez Delphine Horviller, où elle m'invite à dîner, je lui dis, pardon, je ne peux pas m'asseoir, en fait, je suis désolé, il faut que je mange debout. Bon, et ses enfants qui disaient, ouais, ce mec, il n'est pas possible. Je disais, je suis tout cassé. Et à partir de là, avec son génie, en fait, elle a, ça je ne le racontais pas, le truc des côtes, parce que je n'ai pas non plus raconté ma vie, là, à vous, je veux bien quelques minutes, mais... Et elle m'a dit, ah, mais vous savez, c'est comme dans la Genèse et tout. Bon, j'étais très honoré, mais... Et elle a fait un midrash, en fait.
Un midrash,
c'est-à-dire une exégèse d'une partie de la, enfin, d'un morceau de la Bible. Vous savez qu'en hébreu, enfin, je ne vais pas entrer dans les détails, mais en hébreu, l'hébreu est une langue qui a une valeur numérique. Donc, chaque lettre est aussi un chiffre, chaque mot... donne sur un autre mot si on additionne la valeur numérique de chaque lettre. Et ça raconte encore autre chose. Et bref, elle en est arrivée effectivement à me dire, mais vos problèmes de santé sont destinés à vous rendre encore plus... Enfin, comment dire, à vous mettre encore plus près de celles et ceux qui ont failli laisser la vie. Enfin, la défaillance est un mode de connaissance. Seul celui qui s'est cassé, qui est complètement cassé, qui est en morceaux, peut entendre vraiment ceux qui sont cassés. Et alors c'était ce que je faisais sans faire exprès. J'avais cette intuition, effectivement, vous vous souvenez, de ne pas me préserver. Bon, là, c'était aller un peu trop loin. Mais elle m'a donné, effectivement, elle m'a confirmé que peut-être ce que j'étais en train de faire, ce que nous faisions tous, c'était de prendre part. Parce que prendre part, qu'est-ce que ça veut dire ? Enfin, prendre part à la justice, prendre part à un événement. On prenait vraiment part en... Ce n'est pas en payant le prix, ce n'est pas en se sacrifiant, il ne faut pas exagérer non plus, mais c'est en se disposant à recevoir vraiment ce qu'il est impossible de recevoir d'habitude. Voilà.
Je cherchais depuis tout à l'heure quelqu'un que vous convoquez également dans notre solitude, qui est Roland Barthes. En écho à ce que vous venez de dire, vous citez Roland Barthes disant « De la fragilité, c'est une politique à venir ». Et j'aimerais bien savoir si, au fond, c'est aussi un des projets à l'arrivée, ouais, à l'issue de l'écriture. Est-ce que c'est aussi un des projets de ce livre, finalement, rétrospectivement, poser la fragilité comme une politique ?
Absolument, oui. Barthes, c'est une très belle lettre. C'est un texte pas très connu de Roland Barthes. C'est une lettre qu'il envoie à Michelangelo Antonioni. Et il déplie comme ça sa vision des films d'Antonioni depuis quelque chose qu'il y a décelé. Ce sont des ajustements de plans fragiles, et je ne me souviens plus jusqu'où il va, mais moi j'ai tendance à voir la fragilité comme une vertu, en fait, comme quelque chose qui ne relève pas du tout d'un obstacle ou d'un empêchement, mais comme de ce qui favorise l'hypersensibilité. Et dans un monde, je crois que tous les mondes, toutes les époques ont été comme ça, mais dans une époque où la sensibilité ne cesse de s'épaissir, enfin, il y a vraiment un épaississement organisé de la sensibilité au point que les nuances deviennent de la foutaise pour beaucoup de gens. Enfin, tout devient binaire, au fond. Et bien, je trouve que la fragilité participe de ce combat, au fond, politique pour la nuance. Souvent, la force est aveugle. Enfin, même notre propre puissance est un peu taurine, un peu trop masculine, au pire sens du terme. Enfin, il y a une épaisseur, justement, de la force. Moi, je sentais bien que... Alors, ça ne marche pas dans toutes les dimensions. Mais je sentais bien qu'en étant un peu faible, j'avais accès à quelque chose de plus grand, de plus subtil. Voilà. Et je pense qu'il y a une éthique de la fragilité. Et par exemple, dans la dimension médicale, enfin, on le sait tous, enfin, les médecins, les infirmières, les infirmiers les plus qui nous touchent le mieux, le plus, sont précisément des gens qui souffrent même, enfin, qui savent ça. Voilà. Et pas seulement d'un savoir intellectuel. Enfin. Je fais toujours plus confiance à quelqu'un qui n'en peut plus, à quelqu'un de fatigué, qu'à quelqu'un comme ça, d'athlétique. C'est instinctif, c'est comme ça. C'est un peu idiot, mais c'est la chose.
On va peut-être arrêter là. Acheter Notre solitude, le récit d'Yannick Enel, qui est paru aux éditions Les Échappés. Et je vous signale que par ailleurs, il vient de sortir un nouveau livre qui s'appelle Le trésorier payeur, qui est paru aux éditions Gallimard. Voilà. Merci beaucoup pour votre écoute. Merci Yannick.